Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Bonsoir.
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 Nous sommes le mercredi 9 mars, il est 19h passé de 4 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, bien sûr, évidemment, on va commencer par un petit retour sur la loi travail, les manifs, etc.
Ensuite, on ira en Turquie où Erdogan à nouveau muselle la presse.
Les élites jouent aux petits chevaux avec les migrants.
Énigmatique. Ensuite, on enchaînera sur la déchéance de nationalité qui, visiblement, n'est pas pour tout de suite.
Au Japon, la justice ordonne la fermeture de l'arrêt de 2 réacteurs. Et la fermeture de l'arrêt.
La... Non, ouais. Ordonne l'arrêt de 2 réacteurs.
Très bien.
C'est un bug. Ensuite, il y aura la rubrique sur les migrations et les sans-papiers. Le faut que ça se sache.
Et puis, on finira par peut-être, peut-être si ça se trouve, un jour ou l'autre, une
Pourquoi
nouvelle
pas.
ZAD, ça serait du côté de l'Alsace.
Pourquoi pas.
Et on commence donc tout de suite par... cette manif contre la loi El Khomri, et je vais commencer par ce truc où vraiment, y a des gens, ils n'ont pas du tout de latch, puisqu'il y a un texte collectif du soutien au projet à la loi El Khomri qui a été publié dans Le Monde du 5 mars, et il y a 30 signatures. Comparé, vous voyez, il y a une pétition sur le net qui a rencontré, je sais plus, un million de signatures, etc.
Donc je voilà. Parie que les 30, c'est ni des intérimaires, ni des jeunes.
Et ben non, justement, c'est ça, c'est d'une grande médiocrité. Et c'est signé de professeurs de grandes écoles et quelques directeurs de recherche. Donc tous qui ont un statut peu concerné par le projet de réforme du Code du Travail. Et ils disent que c'est une avancée pour les plus fragiles, cette loi. Voilà, c'est dans l'article ce qu'ils disent. Et du coup, depuis leur tour d'ivoire respective, ils nous disent que le chômage se concentre uniquement sur les jeunes et les moins qualifiés qu'il faut aider. Et ensuite, ils se livrent à un plaidoyer en faveur du patronat et contre le Code du Travail. Et l'un des 30 signataires affirme que, je cite, « Nous vivons dans un monde, celui de la destruction créatrice, dans lequel les entreprises sont amenées à changer souvent de domaine d'activité. »
Eh oui.
Alors c'est ça, hein, avec cette histoire de projet de loi, on entend hyper souvent des gens qui s'apitoient sur les chômeurs et qui, parce que les jeunes, les pauvres, ils ont du mal à trouver du travail, les vieux, les pauvres, ils ont du mal à trouver du travail, et donc pour être gentil, mais qui sont vraiment capables de couplets hyper larmoyants. Et leur conclusion logique, c'est qu'il faut que cette loi passe.
Et oui, la déréglementation humaniste.
C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, du coup, cette loi, je veux dire, quand on les écoute, on voit bien que les patrons, globalement, donnent du travail, quand ils peuvent donner du travail, par bonté d'âme. En réalité, le travail ne sert pas aux patrons. C'est vraiment que les patrons, ils veulent donner du travail aux gens qui, eux, sont avides d'avoir du travail. Et les patrons, ils sont un peu là pour ça, mais il faut encore pas qu'on les empêche. Et on les en empêche toujours en les effrayant avec le fait qu'ils vont devoir peut-être payer leurs salariés, que leurs salariés, peut-être, ne pourront pas travailler tout le jour et toute la nuit et toute la semaine et toute l'année. Voilà.
C'est vrai que dans la presse, on a les mêmes intérêts. C'est incroyable.
Dans une interview, de toute façon,
patron,
oui.
On a les mêmes intérêts. C'est toujours pareil. Un patron veut embaucher, un patron ne veut pas licencier.
Gattaz expliquait aujourd'hui que c'était pas du tout une loi pour les patrons. C'est une loi pour tout le monde, bien sûr, évidemment. Alors voilà, avec tout ça, les patrons sont vraiment des sortes de héros de l'économie, mais en même temps qui sont vraiment martyrisés à cause de toutes ces vieilles lois poussiéreuses, dégueu. Et bon, quand on regarde le contenu de la loi, du coup, on voit bien que c'est une loi pour qu'ils fassent plein de thunes, qu'ils puissent réellement exploiter les gens avec quasiment plus aucune limite. Mais quand on regarde, moi, ce qui m'a quand même vraiment frappé, c'est ce petit article qui fait qu'il est non seulement question de bien évidemment tout le discours sur ça va créer de l'emploi, toute cette loi elle vise à créer de l'emploi et tombe à l'eau, mais même juste le fait de faire du pognon tombe à l'eau. En fait, je parle de l'article qui dit que si vous avez quelqu'un de votre famille qui meurt, votre père, votre mère, votre enfant, votre mari, votre femme, dans ce cas, jusqu'à maintenant, vous avez droit automatiquement à 2 jours de travail. Attention, je n'ai pas dit 2 mois de repos, d'arrêt de travail. Je ne dis pas 2 mois de repos pour vous en remettre réellement, pour faire le tour, pour je ne sais pas quoi.
Ce n'est pas 2 jours qu'on fait un deuil de toute façon.
C'est ça, c'est pour l'instant, vous avez droit à 2 jours. Eh bien, grâce à cette loi, votre patron pourra décider que ces 2 jours sont réduits. Et il pourra les réduire autant qu'il veut. Ou il pourra vous laisser une demi-heure pour aller vite fait à l'enterrement, le temps d'entendre l'Ave Maria et revenir en courant au boulot. S'il veut, il pourra faire ça. Non, mais vous, je veux dire, et comment est-ce qu'avec un article pareil, on peut se dire que cette loi, que je veux dire, quel patron se dit, oh, j'aimerais bien embaucher quelqu'un, j'en ai vraiment besoin, mais en même temps, je crains tellement fort que cette personne, son enfant meure. Et que à cause de ça, mon entreprise doit se priver de cette personne pendant 2 jours.
Et donc,
mon entreprise va s'écrouler, l'économie va s'écrouler. Cet article dans cette loi est quand même vraiment la meilleure preuve que cette loi est une loi qui non seulement vise à faire plein de thunes aux patrons et aux CAC 40, etc., mais qui est vraiment une loi de revanche sociale, qui est vraiment une revanche pour tous les droits qui ont été acquis dans les 200 dernières années. Et un truc vraiment de méchanceté pure et simple, quoi, de revanche de classe vraiment dégueulasse. C'est quand même vraiment fou cette histoire, non?
C'est complètement dingue. Mais il y a une autre preuve quand même, c'est que même la CFDT tique, elle n'ose pas signer, quoi. Ça, c'est quand même aussi. En général, ça fait peur.
C'est une preuve logique, tout à fait. Alors, à propos de CFDT, moi, j'ai entendu aujourd'hui, en réalité, sur une radio concurrente que je vais nommer quand même, il s'agit de France Info.
Des petits concurrents.
Et ben des gens de la CFDT qui disaient que leur syndicat, eux, on voyait bien qui disaient qu'une fois qu'on aurait retiré surtout le plafonnement des indemnités prud'homales, à ce moment-là ils allaient se mettre à signer, mais que la base de la CFDT, il y avait juste personne qui allait s'arrêter de faire la grève pour autant. En tout cas, les manifestations aujourd'hui ont globalement été massives un peu partout. Alors c'est compliqué d'avoir des chiffres, hein. De toute façon, même pour Lyon, pour l'instant, les seuls chiffres qui ont été annoncés, c'était 7000 personnes, c'est les chiffres des flics. C'était évident.
Il y a eu 30 000 aussi, 7 000. Selon les orgas, ouais.
D'accord.
À Lyon.
Bon voilà, en tout cas, on était vraiment, vraiment énormément aujourd'hui à Lyon. Et a priori,
c'était
dans le reste de la France...
C'était un nouveau parcours, alors c'est difficile de savoir en plus.
Bah oui,
mais il y avait vraiment beaucoup de monde.
Pour les gens qui voient un peu la géographie lyonnaise, au même moment où il y a des gens qui, sur la place Bellecour, avaient l'impression que la manif n'était pas encore partie, parce que la manif était complètement... parce que la place était encore complètement pleine. En réalité, la manif était non seulement partie, mais la tête de la manif avait suivi les quais en descendant du côté de Perrache et était presque arrivée au pont qui est en face, dans le prolongement de l'avenue Berthelot.
Et moi qui ai, en cherchant des potes, fait des allers-retours constants, j'ai eu bien l'impression qu'arrivé à Jean Massé, du coup la fin du cortège partait seulement de Bellecour, plus ou moins.
Ouais, c'est vraiment dans ces proportions-là qu'on était, quoi. Donc, manif complètement gigantesque à Lyon. Alors, en plus, la question de qu'est-ce qui doit continuer, comment, où, se pose un peu partout. On sait qu'à Tours, où là, il y avait 7000 personnes. Bon, Tours, vous voyez, c'est quand même pas vraiment une sorte de mini-ville. Là-bas, ils sont vraiment arrivés à être 7000. À Tours, par exemple, ils recommencent demain. En tout cas, les étudiants, les lycéens. Après, bien sûr... on a ce problème avec les gens qui sont salariés, qui doivent faire la grève, et les syndicats qui doivent déposer des préavis de grève. Et tous les syndicats, du coup, que ce soit la CFDT, qui bien sûr, alors eux, ils encouragent les gens à aller à la manif, mais il est hors de question qu'ils déposent un préavis de grève. Ou la CFDT qui dépose des préavis, mais qui les dépose un peu au compte-gouttes. Qui, alors, par exemple, pour La Poste, ils n'ont pas du tout déposé un préavis pour La Poste. Ils ont déposé pour certaines agences. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes de La Poste aujourd'hui qui pouvaient faire grève et d'autres non. N'empêche que voilà, en tout cas, voilà, c'est massif, massif. Et aujourd'hui, Lyon a été la seule ville. Alors, on ne va pas faire du chauvinisme. Hein.
Non,
c'est
clairement pas
notre
non.
genre. Mais quand même, Lyon a été la seule ville où les gens ont montré leur opposition à ce texte d'une manière
physique.
Physique. Du coup, voilà, ça s'est terminé avec un petit peu de baston avec les flics à Bellecour. Bon, rien de très, très spectaculaire, hein, mais un petit début...
Un peu la guillotière, du coup.
Ouais, un petit peu la guillotière, un petit peu... Voilà, un petit début de choses qui pourraient, selon comment est l'ambiance dans les jours qui viennent, être une sorte de petite répétition avant un coup un peu plus balèze.
En tout cas, il y a un gros groupe de gens qui, du coup, après le final déposé, apprécié par la préf à Jean Massé, ont décidé de continuer à remonter la guillotière et retourner à Bellecour, et ça représentait quand même beaucoup de monde qui n'ont pas fait acte de discipline.
Même d'après la préfecture, c'était déjà un millier de personnes, oui. Ces gens-là. Et du coup, c'est pas mal à Bellecour.
Sur les soi-disant 7000.
Il y a un petit peu de lacrymo, ouais, c'est ça. Il y a eu un petit peu de lacrymo à droite, à gauche. Il y a eu voilà, des petites canettes qui ont volé. Bon.
Des poubelles, tout ça.
Des poubelles. Alors nous, bien sûr, on va pas du tout encourager les gens à la casse ou à se battre avec la police. Hein. Bon, enfin bon, si ça se passe, ça se passe, quoi. Bon, ben voilà, on va peut-être s'arrêter là, mais on espère que les prochains jours vont être des jours de fête.
Et ni une ni deux, on change de pays, on va en Turquie, où l'agence Jihan, qui est plus ou moins l'agence de presse la plus importante, l'agence privée la plus importante de Turquie, a annoncé hier qu'une juridiction d'Istanbul s'apprête à désigner un administrateur chargé de la diriger à la demande du ministère public. Du coup, voilà, c'est encore un ministère qui va se dire « Ok, je t'annexe, toi, la presse, et je te prends en mon pouvoir ». Cette agence appartient au même groupe de presse que le quotidien d'opposition Zaman. Et du coup, c'est une agence proche de l'imam Fethullah Gülen, dont on a parlé de nombreuses fois dans ce Canu Info. C'est un ancien ami d'Erdogan, dont il a soutenu l'ascension politique.
Un milliardaire.
C'est pas du tout un mec bien, c'est pas du tout un pote. Hein. Mais bon, voilà. Il y a une espèce de bisbille comme ça, parce que Gülen est accusé par Erdogan depuis longtemps de vouloir fomenter un coup d'État en infiltrant la justice, la police, les médias, ce que ne fait pas du tout Erdogan, bien sûr. Et voilà, il est accusé de créer une structure parallèle pour monter un coup d'État. Bref, ils se font la guéguerre pour le pouvoir depuis un petit moment. Et du coup, par contre, c'est la presse qui en pâtit. Du coup, Zaman, qui est ce journal proche de l'agence Jihan, il va falloir suivre avec les noms turcs, hein, je vous préviens, a lui été placé sous tutelle judiciaire vendredi par le tribunal d'Istanbul. Tutelle dénoncée par les organisations de défense des droits de l'homme et des responsables européens, sans doute pas les mêmes qui négocient tous les traités économiques avec la Turquie. Et en tout cas, ils y voient une preuve d'une volonté du pouvoir turc de réduire au silence les voix dissidentes, ce qui n'est pas du tout un scoop. Vendredi soir, les forces de police sont entrées dans les locaux du journal après avoir dispersé à coups de canons à eau et de tirs de gaz lacrymogène 500 manifestants venus clamer « On ne fera pas taire la presse libre ». Plusieurs autres organes de presse liés au mouvement de Gülen ont été saisis déjà en octobre et il y a des entreprises aussi qui avaient été confisquées. Du coup, c'est vraiment une guerre qui se livre à ce niveau-là. Sur le site de Zaman France, il y a un journaliste qui explique que la confiscation de cette agence, Jihan donc, qui a un contrat de partenariat avec l'AFP, aura une incidence sur le contrôle de la régularité des élections en Turquie. Puisqu'étant donné son maillage territorial, ça permettait en effet que c'était la seule à pouvoir concurrencer l'agence publique qui s'appelle Anadolu, dont les estimations ont largement tendance, quelle surprise, à annoncer de très bons scores au parti au pouvoir, le parti d'Erdogan, l'AKP. Pourtant, la journée de vendredi avait quand même bien commencé, puisqu'elle avait commencé avec la libération de deux journalistes du quotidien d'opposition, Cumhuriyet. En l'occurrence, notamment, Can Dündar, qui est le rédacteur en chef, et un autre journaliste qui était le chef de bureau à Ankara, après 3 mois de tôle, quand même. Alors, eux, c'est des adversaires relativement déclarés du régime islamo-conservateur d'Erdogan. Ces deux journalistes avaient été accusés d'espionnage, de divulgation de secrets d'État et de tentative de coup d'État, carrément, tentative de coup d'État. Ils avaient été croués, du coup, depuis la fin novembre. C'était quoi la cause ? Eh bien, c'était la diffusion en mai d'un article et d'une vidéo sur l'interception par des gendarmes turcs, en janvier 2014 et à la frontière syrienne, de camions appartenant au service secret turc. Et du coup, transportant des armes destinées à des rebelles islamistes en Syrie. Eh bien oui, du coup, Erdogan, ça suffit pour lui, pour qu'on appelle ça une tentative de coup d'État. En tout cas, le rédacteur en chef de Cumhuriyet, du coup, a dénoncé le climat de peur propagé par le régime parmi les journalistes et a conclu même la conférence de presse après sa libération par cette citation. « Si vous êtes journaliste en Turquie, aller en prison fait partie de votre plan de carrière. » À la suite de ça, aujourd'hui, il y a le rédacteur en chef du journal Birgun qui a été condamné à 21 mois de prison pour avoir insulté du coup Recep Tayyip Erdogan en dévoilant dans ses colonnes des détails d'un procès pour corruption qui s'était tenu au mois de décembre. Ça, c'est une insulte. Bien que le verdict ne puisse entrer en vigueur, car il faut quand même qu'il y ait la Cour de cassation qui l'approuve, le journaliste est quand même déjà derrière les barreaux. Le texte de l'accusation portée du coup contre lui s'appuie sur des preuves incroyables, à savoir sur les premières lettres des paragraphes de l'article du journaliste qui, lus de haut en bas, sont censés former les mots « voleur Tayyip ». Il est quand même susceptible.
Tu peux nous répéter ça ?
Alors, tu prends l'article, tu vois, hop, tu vois un article de journal, tac, 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 pleine page, comme ça. La première lettre, du coup, la grosse majuscule en général, souvent, je ne sais pas comment il est mis en page, ce canard-là. Et bien du coup, où il y a un petit décochement de paragraphe là, si tu lis toutes les lignes, ça dit en turc « voleur Tayyip ».
Waouh !
Alors bon, soit ça a complètement trippé, soit c'est une espèce de blague niveau lycée quand même, un peu cultivée littéraire, mais bon, voilà, en tout cas c'est là-dessus qu'il se retrouve avec 21 mois de tôle.
Eh ben, je vais faire le lien avec un peu avec ce que tu racontes, puisque il y a eu encore de nouveaux accords entre les chefs d'État des gouvernements européens et l'État turc. Du coup, on peut nommer ces accords scélérats, puisqu'ils ont été faits contre les migrants et ils piétinent absolument tous les bases de droits humains qu'il y a un peu en Europe. Voilà, c'est pour ça que j'avais intitulé « Les gouvernements jouent aux petits chevaux avec les migrants ». Puisqu'ils les déplacent un peu partout, aussi comme bon leur semble.
D'où ce titre énigmatique, d'accord.
C'est ça. Et alors, donc c'est ça, c'est que l'Europe enterre une fois de plus ces dernières semaines les principes du droit d'asile. Et elle continue vraiment de creuser. Nouvelle étape du calvaire, c'était lundi à Bruxelles, avec l'énième sommet consacré à la crise des migrants. Et à l'issue de 12 heures de discussion, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord avec le Premier ministre turc pour dissuader les migrants de chercher la paix et la sécurité dans l'Union européenne. Donc d'où tu dissuades des gens de chercher la paix ? Je ne sais pas, mais ces personnes se sentent... un but de leur pouvoir, je pense. Et donc, sous couvert de lutte contre les passeurs, hein, les fameux passeurs, tout semble permis. On peut ainsi, comme l'envisage le Conseil européen, expulser vers la Turquie tous les migrants ayant traversé la mer Égée depuis ses côtes, y compris les demandeurs d'asile syriens, donc en violation complète de la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés. Et puisque, je cite... cela va briser le business model des passeurs. Et je cite à nouveau, nous avons la base pour une percée, à savoir qu'à l'avenir, tous les migrants qui arrivent en Grèce seront renvoyés en Turquie. Ça, c'est David Cameron, le premier ministre britannique, qui s'en vantait lundi soir. Et du coup, le principe serait, le nouveau principe de Bruxelles qui est sorti de cette négociation, c'est du 1 pour 1. Donc un migrant renvoyé en Turquie qui ouvrirait la voie à une relocalisation d'un réfugié syrien dans un pays de l'Union européenne. Alors dans les petits chevaux, on joue au dé, là c'est pas un jeu de dé, mais c'est un 1 pour 1, c'est-à-dire tiens je fais sortir mon petit chevaux de la cabane pendant que l'autre se déplace à un autre endroit du plateau. Et donc ils sont contents puisqu'ils disent c'est la fin de l'immigration illégale. Et donc lui c'est Donald Tusk qui est président du Conseil européen actuellement qui a conclu là-dessus. Donc le représentant du régime d'Erdogan à Bruxelles, Davutoğlu, peut se targuer d'être au centre du jeu puisque depuis ces accords le pays obtient une rallonge de 3 milliards d'euros, en plus des 3 milliards d'euros déjà accordés. et la perspective d'une suppression des visas pour que ces ressortissants circulent librement dans l'espace Schengen. Donc c'est ça, c'est que, ok, l'Union européenne, les dirigeants de l'Union européenne veulent bien que la Turquie garde les migrants et ils leur accordent un certain nombre de trucs.
Et les dirigeants de l'Union européenne passent leur temps à faire la morale à tel ou tel chef d'État européen parce qu'il muselle la presse ou qu'il prend un peu trop le contrôle de la justice, comme à la Pologne ou à Viktor Orban. Là. Mais alors là, quand quelqu'un a dans ses mains le fait de pouvoir ouvrir ou fermer ses portes aux migrants comme Erdogan, ils sont vraiment prêts à passer sur tout, mais sur tout. Quoi.
Et voilà, et c'est ce qui fait qu'ils passent absolument sur les critiques du droit d'expression en Turquie. Actuel, du moins je veux dire c'est depuis des années, c'est pas nouveau, mais en ce moment on n'entend pas du tout parler dans les médias parce que ça n'arrange pas et que toutes les clés sont en main d'Erdogan et bien sûr il en profite, c'est un homme de pouvoir, un butin personne comme la plupart des dirigeants. Donc ce sommet européen a consacré bel et bien toutes les politiques de construction de murs et de barbelés dans l'Union européenne, je veux dire on peut. C'est complètement explicite, quoi, maintenant. Et le dispositif de partage des réfugiés par quota entre les États membres est resté quasiment au point mort depuis l'automne. C'est une belle déclaration d'Angela Merkel, dont on ne pense pas du bien ici, mais je veux dire, ce truc-là, c'est une déclaration, quoi. En fait, ça ne se passe pas du tout. Et voilà, c'était pour faire un petit point d'actualité là-dessus, qui n'est pas du tout réjouissant.
Alors, hop, on revient un petit coup en France. Alors, cette histoire de déchéance de nationalité, ça en est où ? Eh ben, on dirait que ça va quand même pas être pour tout de suite, parce que aujourd'hui les sénateurs ont fini par voter le texte, mais en fait ils ont voté un texte qui n'est pas du tout le même que celui qu'avait voté l'Assemblée nationale. Tout ça malgré les exhortations de Manuel Valls qui les avait quasiment suppliés de voter le même texte, s'il vous plaît, qu'on en finisse avec cette merde, enfin avec cette histoire.
Cette merde.
Oui, mais dans les mots de
Valls,
c'était
oui.
Pas ça.
Oui.
Mais alors en fait non, ils ont vraiment voté un texte différent, plus craignos d'un côté, moins craignos d'un autre, mais du coup différent de celui qu'avait adopté l'Assemblée nationale, c'était il y a un mois, c'était le 10 février. Et alors du coup, d'une part sur la déchéance de nationalité et d'autre part sur l'état d'urgence. Donc à peu de choses près, les sénateurs sont revenus à la première version du texte, celle qui sortait du gouvernement avant que ce texte soit amendé par l'Assemblée. Or, bien sûr, du coup, petite révision constitutionnelle pour les gens qui sont pas. Mais du coup, pour qu'un texte de loi soit adopté, il faut que l'État et l'Assemblée nationale le votent dans sa même version très précisément, quoi, à la virgule près.
Le Sénat et l'Assemblée nationale.
J'ai dit quoi ?
T'as dit l'État.
Le Sénat et l'Assemblée nationale, tout à fait. Donc là, pour l'instant, c'est pas exactement le même à la virgule près. Vous allez vous en rendre compte. Donc les deux gros changements de cette nouvelle version, c'est la déchéance. Qui, alors finalement, ne concernerait à nouveau plus que les binationaux, puisque y a l'enjeu là-dessus, c'est au départ, au tout début de ce projet de déchéance de nationalité, Valls et Hollande avaient dit « Ah ouais, ce serait quand même cool qu'on puisse dire que les gens qui font du terrorisme et qui sont pas français, qui sont français, mais qui sont mal français un peu, ceux-là qu'on puisse les dégager de la nationalité française. » Donc il fallait pour ça qu'ils aient une deuxième nationalité, ce qui permettait de les dégager. Puis,
car on n'a pas le droit de créer des apatrides, ça c'est une espèce de.
Bah alors visiblement on a le droit, mais ça j'arrive pas. C'est mal.
Qui disait non, mais
c'est plus ouais. Que c'est mal.
Ok, d'accord.
Mais parce que là, au moment où ils voulaient ne pas créer d'apatrides, donc déchoir les gens qui avaient une autre nationalité, à ce moment-là, les critiques de gauche, un peu, mais, qui étaient de gauche mais quand même pas trop, c'est-à-dire les gens qui trouvaient que oui, il fallait faire quelque chose et qu'enlever la nationalité, ça allait sûrement faire peur aux terroristes qui allaient arrêter tout ça, disaient oui, mais quand même, c'est un peu embêtant parce que là, on traite différemment des gens qui sont tous citoyens français, mais en fonction de ce qu'ils sont par ailleurs. Et du coup, ça faisait une différence entre les citoyens français qui étaient craignos et racistes, on pourrait dire.
On pourrait le dire.
le gouvernement, suivi par l'Assemblée nationale, avait dit bon, d'accord, on va déchoir de leur nationalité tous les gens qui font du terrorisme. Donc l'Assemblée nationale avait voté un texte qui allait dans ce sens. Mais là, le Sénat a à nouveau dit, bah non, en fait, vraiment, créer des apatrides, c'est mal. Donc ça ne va plus être que les binationaux. Tac, hop, ils ont taclé l'Assemblée là-dessus. Par ailleurs, du coup, le Sénat là-dessus, quand même, plus raciste que les autres, mais en même temps, qui ne veut pas créer des binationaux. Non. Par ailleurs, l'Assemblée nationale voulait déchoir les gens lorsqu'ils étaient condamnés pour un crime ou un délit constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Et là, maintenant, ça ne peut concerner, donc une fois que c'est passé par le Sénat, qu'une personne condamnée définitivement, ils ont rajouté le mot définitivement, donc il ne suffit pas d'une première condamnation, il faut condamnation, appel, cassation, condamnée définitivement pour un crime, et ils ont enlevé le délit, c'est-à-dire que avec la version de l'Assemblée, quelqu'un qui faisait un truc vaguement illégal mais qui aidait à une entreprise terroriste pouvait être déchu de la nationalité, là maintenant il faut vraiment que la personne ait directement commis un crime, c'est-à-dire en gros buter quelqu'un. Ouais. Et voilà, et cette histoire de nationalité. Alors, ça c'est une première chose, mais qui fait dans tous les cas que ça va encore prendre du temps, parce qu'avant qu'ils arrivent à se mettre tous d'accord, on va en reparler de
parce
cette histoire.
Parce que là, du coup, révision constitutionnelle, si je ne m'abuse, ça veut dire que le texte va devoir être renvoyé à l'Assemblée, faire une navette, là, comme
c'est
ils
ça.
Disent, pour être revoté.
Voilà, et l'Assemblée qui risque de dire oui, mais non, mais quand même, hop, elle va en répondre une nouvelle version, une toute nouvelle, qui va repartir au Sénat, okay. Qui peut-être l'adoptera, ou peut-être, en fait, dira ah ben non, on va encore faire une nouvelle version, ça peut durer. Et alors, l'autre chose qui s'est passée aujourd'hui au Sénat, c'est aussi sur le projet de révision constitutionnelle qui faisait que le régime d'état d'urgence allait rentrer mieux dans la Constitution. Et donc, en particulier, l'Assemblée nationale était OK pour que, quand il y a l'état d'urgence, il puisse rester 4 mois comme ça, sans qu'on fasse rien. Et le Sénat a dit non, 4 mois, c'est trop long, ce sera plus que 3 mois. Bref, toutes ces histoires de déchéance de nationalité et de constitutionnalisation de l'état d'urgence, ça va encore durer un peu avant qu'il arrive à trouver un accord.
Et on retourne dans un autre pays, nous n'arrêtons pas le zapping, j'espère que les gens qui aiment les rubriques bien rangées arrivent à suivre. On va au Japon maintenant, où il y a où ça barde un tout petit peu pour le nucléaire japonais. C'est surtout un revers d'ailleurs pour le gouvernement, puisque en dépit du feu vert qu'avait donné par le Premier ministre Shinzo Abe, concernant le redémarrage des installations nucléaires japonaises, un tribunal nippon a ordonné aujourd'hui la fermeture des unités 3 et 4 de la centrale de Takahama, qui est dans l'ouest du pays. Pas convaincu par les arguments avancés par la compagnie qui l'exploite, c'est-à-dire Kansai Electric Power, le juge en charge de la ferme a affirmé « Il reste des interrogations sur les mesures de protection vis-à-vis d'un tsunami et concernant les plans d'évacuation. » On ne peut pas dire que la compagnie ait fourni suffisamment d'explications sur le plan de la sûreté. Et voilà, c'est bien sûr la preuve que le spectre de Fukushima Daiichi plane encore au-dessus du nucléaire national, voire mondial, comme on le verra plus tard. Et bien sûr, c'est en plus une espèce de moment un petit peu événement comme ça, puisque c'est vendredi, entre guillemets, l'anniversaire des 5 ans de la catastrophe de Fukushima. Donc on en est juste, je pense, en une période un peu pleine émotion, j'imagine, au Japon. En tout cas, après un an de bataille judiciaire, les 29 plaignants, eux, ils y sont hyper contents. Ils sont tous originaires de la préfecture de Shiga, qui est proche des réacteurs de Takahama. Et ils sont sortis du tribunal en criant leur joie devant les caméras. Les autres vainqueurs du procès, c'est les écologistes, qui s'étaient opposés à la réactivation de ces fameuses unités 3 et 4 au début de l'année 2016. Et là, je les cite, « Le redémarrage de Takahama témoigne de l'échec total de l'autorité de réglementation nucléaire du Japon à faire de la sécurité du public une priorité. » Alors aujourd'hui, ils fêtent ce qu'ils appellent une victoire qui fera date et un message clair au secteur nucléaire, une semaine après la décision de traduire en justice des ex-dirigeants de TEPCO. TEPCO, c'est la boîte qui exploite Fukushima. Pour négligence professionnelle ayant entraîné l'accident en 2011.
Mais alors, on parle du Japon, mais Fukushima et le nucléaire, c'est quand même un problème largement mondial. Et tout ça fait écho, bien sûr, à l'attaque que vous avez dû entendre, l'attaque de la Suisse vendredi sur la vétusté de la centrale du Bugey. Je rappelle qu'elle est à 70 km de Genève, mais qu'elle est que à 30 de Lyon. Et notamment de sa pollution des eaux du Rhône aussi. La centrale du Bugey est régulièrement visée par les antinucléaires qui la considèrent comme particulièrement dangereuse. Sur ces 5 réacteurs, il y en a un qui est en cours de démantèlement. Un autre est à l'arrêt depuis août 2015 et pour celui-là, l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, a exigé d'EDF la réparation d'une dégradation de l'étanchéité du revêtement métallique. Ça sonne pas bon, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a une autre centrale, enfin une centrale française à nouveau, qui se trouve tout aussi régulièrement sous les feux du projecteur. C'est la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, c'est dans le Haut-Rhin. Ou là-haut à l'est, là. C'est la plus ancienne de France, sans doute la plus vétuste, et du coup cette fermeture était une des promesses de campagne de Hollande, avant son élection, bien sûr, avant son élection. Et elle était censée fermer en 2016, paraît-il. Et on est en 2016. Eh ben, on attend toujours.
Ah, et alors, non seulement on attend toujours, mais Ségolène Royal a quand même annoncé dimanche dernier, celui d'avant, que les centrales nucléaires françaises, qui au départ avaient été construites pour 30 ans, où finalement il a été décidé qu'elles allaient bien pouvoir durer 40 ans, la Ségolène Royal a annoncé qu'elle allait peut-être quand même étudier sérieusement le projet de les faire durer 50 ans. En disant, mais de toute façon maintenant elles sont amorties, alors c'est l'électricité qu'on en tire encore, c'est quasiment de l'électricité gratos. Ce qui, bien sûr...
Et notre facture, elle ne change pas. Hein.
Est un petit peu... et oui, mais sauf qu'en réalité, elle va changer parce que l'électricité en question n'est pas du tout gratos, vu que les centrales en question tombent en ruine, qu'il va falloir faire des travaux de malade dessus, et qu'en réalité, ça va être de l'électricité hyper chère, en plus du fait que, bien sûr, elles peuvent... Enfin, les travaux, les travaux en question, ben, on espère qu'ils vont se faire et qu'ils vont bien se faire, mais on sait par ailleurs que EDF est vraiment capable à des moments, et il l'a déjà fait, de cacher des informations un peu vitales à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire française, pour faire continuer ces merdouilles sans qu'on lui cherche trop d'époux. Quoi.
Sachant qu'il me semble, je ne sais plus si c'est le Bugey ou Fessenheim, mais c'est un peu les deux plus vieilles, qu'il y en a une des deux, ou au moins une partie, qui date quand même de 69. Du coup, ça fait déjà plus de 40 ans, et pas encore 50, effectivement, mais bon, largement expiré la deadline. Quoi.
À tout moment, ils peuvent venir te prendre tous les moments. À leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expliquer.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Blabla, info, contre la machine à expulser.
Et ben, on va commencer en parlant de Calais où les destructions continuent. Et donc je vais commencer par les habitants du bidonville qui sont en grève de la faim. Puisqu'il y a eu un jour où on en a entendu parler dans les médias, puis hop, ils ont un peu disparu de la circulation. Ben, c'était pour dire ben, qu'ils continuent leur grève de la faim et que maintenant ils sont plus 9 mais 12. Et donc il y a deux personnes hier qui ont rejoint cette grève de la faim et que maintenant tout le monde s'est cousu les lèvres. Voilà, et donc il y a un blog en anglais qui a été créé pour suivre leur mouvement et communiquer donc leurs messages, les messages des profs proches, etc. Si vous voulez aller le consulter, donc c'est ça s'appelle Calais Hunger Strike 2016 blog.wordpress.com. Voilà, et donc ce que je disais, c'est que depuis lundi, les expulsions, destructions ont reprise. Donc pour les gens qui vivent à Calais sur ce bidonville, bah, c'est une trêve d'un week-end, c'est assez court, deux jours pour ne pas être en présence des CRS. Et donc l'aire détruite depuis la semaine dernière s'est bien évidemment agrandie. Et cette fois, les blogueurs de passeurs d'hospitalité expliquent que la destruction pèse sur l'ensemble du bidonville, puisque jusqu'à présent, il suffisait de s'éloigner d'une centaine de mètres pour constater que la vie continuait. En fait, c'est une immense ville avec, vous voyez, différents quartiers, etc. Donc ça faisait une ambiance de ville qui continuait, et que la musique sortait des bars, les va-et-vient, les attitudes restaient les mêmes. Et maintenant, il règne un peu un silence de défaite là depuis le début de la semaine, puisque les CRS continuent à grappiller les espaces. Et c'est que les habitantes de la partie sud du bidonville qui sont visées par l'arrêt d'expulsion actuelle, partent dans la partie nord. Et donc, tous les jours, ce sont des cabanes déplacées sur des plateaux de camionnettes. Ce sont des gens qui portent des parois en bois de leur habitation, des palettes, des effets personnels. Et donc, ce qu'ils racontent, c'est que les rues du bidonville ont des allures d'exode. Sachant que on parle d'une situation qui est au départ déjà très précaire, et que là, l'État ne fait que reprécariser des personnes extrêmement précaires.
Et qui subissent déjà l'exode.
Voilà. Et donc, on repense au tournant de mars-avril 2015, c'était il y a un an, lorsque les exilés ont été obligés de quitter les squats et les campements où ils s'étaient installés sur le terrain là actuel que maintenant l'État vire, et où ils allaient soi-disant être tolérés, puisque c'est l'État qui l'a mis en place. Et c'était alors la plus grosse expulsion que Calais ait connue. Elle concernait 1500 personnes, et depuis, actuellement, on fait les nouveaux chiffres historiques. On est à la quatrième expulsion partielle du bidonville, et on est dans le livre du record en matière d'expulsion à Calais. Et d'expulsion en France, je crois aussi, on peut le dire maintenant facilement. Et donc, en détruisant le bidonville, sans proposer de solution plus décente qu'un camp humanitaire, qui ressemble plus à un camp de détention, le gouvernement impose à coups de bulldozers, de coups de matraque, de grenades lacrymogènes et même de canons à eau. Donc leur but est de détruire et de renvoyer chez eux des migrants, on peut le dire clairement. C'est pas la politique de l'accueil, elle est plus du tout là, et elle est là, je pense, par une minorité de gens, plus militants, plus associatives, etc. Et on ne parle jamais dans les grands médias de la résistance à Calais et les personnes qui se battent et qui ne se laissent pas faire. Il y a eu des gens qui sont montés sur le toit de leur cabane, même si c'est une cabane, même si c'est précaire et qu'il n'y a pas l'eau courante dedans, ils ont empêché la police de les dégager, même s'ils sont pris des coups de matraque. Ça s'est passé ces dernières semaines. Et dans les médias, on n'entend que les expulsions, mais on ne parle pas vraiment. Il y a des gens, ils sont défendus avec tout ce qui leur restait, avec leur corps et tout. C'est ma manière de conclure et de boucler, parce que il ne nous reste plus que nos corps pour nous battre, on peut arriver à se coudre les lèvres comme manière de résistance et de lutte.
Et on va en Île-de-France maintenant, excusez-moi, on va en Île-de-France maintenant du coup, puisque 4 incendies volontaires ont été déclenchés ces derniers jours dans le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot. Parmi les trois qui ont eu lieu dans le CRA numéro 2, puisqu'il y a plusieurs ensembles dans ce CRA, le plus violent s'est propagé samedi après-midi. Il y a deux camions de pompiers et un hélicoptère qui ont alors été réquisitionnés, l'incendie ayant fait au moins 4 blessés par contre. Les deux autres ont eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Dans le CRA numéro 3, le feu a pris dans la soirée de dimanche. Alors je rappelle que le CRA de Mesnil-Amelot est une espèce d'aberration administrative, puisqu'il regroupe dans une même enceinte deux centres sur plusieurs bâtiments, avec dans un bâtiment attenant un tribunal délocalisé. C'est quand même le plus grand CRA de France, et qui est situé extrêmement stratégiquement juste au pied des pistes de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Alors donc, suite au premier incendie, il y a les femmes qui sont enfermées au CRA numéro 2, qui ont été transférées vers le CRA de Paris. Il est dans la cité, il est sous le tribunal sur la presqu'île. Certains hommes l'ont été vers le CRA numéro 3 ou celui de Palaiseau, au sud de la banlieue parisienne. D'autres personnes que l'administration ne pense pas parvenir à expulser ont été libérées. Ça, c'est la bonne nouvelle. La soixantaine d'hommes toujours enfermés est désormais regroupée dans les deux bâtiments encore ouverts et accessibles, dont celui de la zone femmes-famille, où le chauffage ne fonctionne par contre presque plus. Il y a deux personnes qui sont soupçonnées d'être à l'origine du premier départ de feu de samedi qui ont été hospitalisées. Elles auraient toutes deux été placées en garde à vue pour comparaître devant la justice suite aux dégradations. Eh oui, comme d'habitude. L'administration a décidé de priver toutes les personnes enfermées de leur droit de recevoir des visites depuis samedi. Par ailleurs, c'est bien, ils viennent de sortir d'un incendie et tout ça, ils peuvent pas voir leurs proches, c'est super. Par ailleurs, les effets personnels restés dans les bâtiments qui ont pris feu sont inaccessibles, y compris pour les quelques personnes qui ont été libérées. Les incendies des centres de rétention, ça j'avais envie de faire un petit speech, même si on a parlé plein de fois dans cette rubrique, c'est pas uniquement des actes symboliques, même si la symbolique est forte. On voit là par exemple que du coup il y a pas mal de personnes qui ont vu leur enfermement raccourci. C'est toujours une très bonne nouvelle, d'autant que ces personnes semblaient difficiles à expulser aux yeux de l'administration, il y a fort à parier qu'elles étaient dans des situations de recours ou de procédures complexes, des situations qui nécessitent du temps pour parvenir à monter un dossier digne de ce nom. Bref, des gens qui n'ont rien à faire dans un centre de rétention, mais qui, parce qu'ils n'ont pas exactement juste le bon papier très clair et très précis, se retrouvent en CRA au bon jugé d'un flic qui contrôle dans la rue, et ils passent des fois un temps hyper long alors qu'ils sont en train de faire des demandes. Et il y a un deuxième truc aussi qui est très important dans les incendies, c'est que qui dit incendie dit travaux par la suite dans une partie du centre. Donc moins de lits, moins de chambres qui sont disponibles, donc moins de rafles de sans-papiers à tous les coins de rue. Ça permet à d'autres personnes dehors de souffler un tout petit peu et c'est toujours ça de prix.
Ah oups, c'est à moi, alors c'est plus la rubrique, il faut que ça se sache. Maintenant on va en Alsace. Bon, on va faire un peu rapidement, hein, mais en fait, c'est un article de 20 minutes et j'ai pas pris beaucoup plus d'infos que ça. Mais c'est rigolo de voir comment les gens parlent de cette histoire. L'article s'appelle « L'opposition au projet autoroutier GCO va-t-elle donner naissance à une ZAD ?» Alors voilà, en fait, c'est en Alsace où il y a une histoire de projet de contournement autoroutier. Du coup, il y a des gens qui sont contre. Et ces gens se demandent si, pour être contre, ils vont pas finir par faire une ZAD. L'hypothèse d'une ZAD n'est pas exclue, nous dit Luc Hubert, qui est le porte-parole du collectif GCO Non Merci. Quel collectif qui regroupe toutes les assos qui luttent contre ce machin. Donc des collectifs dans lesquels il y a aussi des gens qui sont pas dans une asso et des élus. Tous les opposants ne sont pas forcément pour. Cela crée de la discussion en interne. Mais c'est rigolo de la manière dont ils parlent de créer une ZAD comme ça. Indique Bruno Dalprat,
qui est en Alsace, quoi.
Mais c'est ça, qui est secrétaire. Alors, je ne vais même pas vous faire
réciter avec l'accent, c'est dommage.
Qui est secrétaire régional des Amis de la Confédération Paysanne Alsace. Et donc, lui nous dit qu'il est plutôt favorable à une zadification du tracé, même si ce n'est pas vraiment le but, que les porteurs du projet ont une façon d'agir qui nous oblige à monter d'un cran notre opposition. Danny Karcher, le maire de Kolbsheim, est opposé à ce projet qui ne tient pas la route et estime qu'on risque d'aller vers ça, vers la ZAD.
La zadification.
Et il nous dit, il faut hélas de la zizanie pour qu'on en parle. Bon, au moins un élu qui a envie de rigoler. Quand on voit qu'on se moque de nous, je pense qu'on a le droit d'être fâché et de faire la gueule. L'élu assure qu'il serait le premier à comprendre si des gens occupaient les lieux et qu'il n'irait pas les déloger.
Pourtant, il s'appelle Karcher.
Et il s'appelle Karcher.
Pardon.
Marie Marty, qui est secrétaire de l'association Alsace Nature, prévient « La ZAD est un concept mouvant ». Et alors elle dit quand même que la ZAD, il ne suffit pas de décréter une ZAD, hein, il faut qu'une alchimie se crée, qu'elle n'est pas transposable. Elle dit que s'il y a une occupation du terrain, son asso soutiendra. Mais personne ne peut dire qu'elle doit être faite. Quoi. Si le mouvement se crée, on sera présent, mais cela ne se décrète pas. Et si un jour ce mouvement d'occupation de terrain se crée, ce sera sur certaines zones stratégiques du tracé. Donc ça, c'est le gars, le président de l'asso GCO, non merci. On n'est pas sur une implantation fixe, d'où l'idée de mettre des cabanes anti-GCO à intervalles réguliers, mais intervalles dans le temps. Alors lui, bon, ça comme ZAD, ça paraît un peu chelou, une sorte de ZAD, hop, en pointillé, quoi. Un jour oui, un jour non. Et alors, bien sûr, le problème, c'est les risques de débordement, parce qu'on sait ce que c'est qu'une ZAD. Et donc ça, c'est Marie Marty qui nous dit « On a pu lire que certains élus favorables au projet d'autoroute comparaient les zadistes au Black Bloc de l'OTAN. » Alors, les Alsaciens semblent avoir été traumatisés par cette réunion de l'OTAN il y a quelques années. C'est de la provocation de dire ça. Et elle rejoint Bruno Dalprat, qui assure que pour en connaître des zadistes de Notre-Dame-des-Landes, ce ne sont pas des voyous ou des délinquants. Ce sont des gens intéressants à connaître. Il ne faut pas se focaliser sur les quelques éléments perturbateurs qui existent comme partout ailleurs. Alors voilà, en attendant cette histoire de ZAD, pour l'instant, il y a quand même déjà une occupation festive de la réserve du Bichnoï. C'est les 2 et 3 avril, et ça aura lieu entre... Alors notez bien si vous avez envie d'y aller, hein, pour aller peut-être créer une ZAD
en Alsace.
Entre Ernolsheim, Brücke et Kolbsheim, avec concerts, animations nature, village de la convergence, forum, atelier, blablabla. Bla bla bla. Donc voilà, vous avez noté les noms des bleds, hein, Ernolsheim, Kolbsheim... Et Stutzheim-Offenheim. Voilà, occupation pour l'instant les 2 et 3 avril, et puis on verra par la suite si oui ou non on ZAD.
Et d'ailleurs, pour faire une transition entre ton sujet et l'agenda à suivre, il me semble que dimanche soir, il y a un concert de soutien à la ZAD de Boiron, pour la ZAD de Boiron, avec les stars de la chanson punk que sont René Binamé.
Et il va y avoir également samedi à Terre des Livres un débat. Terre des Livres, c'est rue de Marseille. Dans
86.
86 rue de Marseille dans le 7e arrondissement. Et c'est à 15h et c'est un débat « Que veut dire race aujourd'hui ?» Et c'est le collectif postcolonial qui organise ça. Il a un autre nom que collectif, j'ai oublié, le centre d'études postcolonial qui organise ça. Et sinon, je voulais vous annoncer que bah, la revue Timult, une revue féministe qui sort une fois par an, vient de sortir là actuellement. Vous pouvez la trouver, je pense, maintenant dans des librairies. Donc c'est une brochure à prix libre qui se trouve dans quelques librairies lyonnaises.
La Griffe.
Ouais,
Cœur des livres, je pense.
Ouais, c'est ça. Et donc, vous pouvez retrouver, je pense, les adresses où elles sont sur leur site internet. En tout cas, je l'ai eu entre les mains. C'est une belle brochure. Les articles ont l'air bien, bien passionnants. Comme
souvent.
Comme souvent, voilà. Donc, n'hésitez pas à la lire. Et puis, autre petite info d'agenda, c'est plus... comme nous, on fait peu d'agenda, c'est plutôt un plus de où aller chercher. Il y a un blog maintenant qui s'appelle Ville Morte. C'est un blog lyonnais qui recense les fêtes, un peu les concerts, tous les trucs plus punk, électro de la ville pour bouger en soirée. Donc en plus des médias militants qu'on a l'habitude de nommer, ben, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à ce nouveau blog. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis de toute façon, là, vous allez avoir un agenda complet grâce à Idée Noire qui va nous succéder dans 8 minutes.
Mais par contre, moi, je vais clore cet agenda avec une autre info qui d'ailleurs est dans le dernier Ville Morte, si vous l'avez vu. Il y a une soirée vendredi, c'est 11 mars du coup. C'est le deuxième Fukushima Mon Amour qui aura lieu à Lyon. À 18h, il y aura des lectures et des discussions autour de Fukushima 5 ans après, oublier Fukushima, etc. Et à partir de 20h, jusqu'à certainement pas d'heure, près d'une dizaine de concerts, du coup, sur plusieurs scènes. Avec notamment Tout doit disparaître, il y a Léonard Kotick et très bon et Jean-Michel Tarr, très bon nom aussi, mais c'est les deux qui sont de Greuze. Pierre Normal, Poison Point, Frau Karl, Iceberg, Tisiphone et Pétasse. Wow.
Une grosse soirée en perspective.
Pour l'info et l'adresse, eh ben c'est rock'n'roll. Adressez-vous avec votre boîte mail à trouavomi@riseup.net. T-R-O-U-A-V-O-M-I
D-R-O-U-A-V-O-M-I.
Tu veux le redire encore une petite fois là?
D-R-O-U-A-V-O-M-I @riseup.net.
Et ben voilà, on,
et ben on se retrouve la semaine prochaine.
7 minutes d'avance et on laisse la place à Idée Noire.
Ciao,
bonne soirée sur Canu.
Ciao.